son d'Europe, Catherine Roland. Bonjour à tous. C'est une tendance inexorable en Europe. La pratique religieuse recule, notamment chez les jeunes, même s'il existe encore de grandes disparités entre les pays. En Pologne, par exemple, si 90% des habitants se déclarent catholiques, un peu moins de 40% d'entre eux se rendent régulièrement à la messe le dimanche. La constitution polonaise institue la liberté de culte et de conscience, mais elle reconnaît la religion catholique comme majoritaire. L'État polonais et le Vatican sont d'ailleurs liés par un traité, le Concordat. Financement public, éducation des enfants, lobbying au Parlement, la religion influence toujours grandement la vie politique et sociale. Pourtant, des militants plaident pour une Pologne plus laïque. Thomas Giraudeau les a rencontrés à Varsovie.
Un local d'artiste au premier étage d'un vieux bâtiment de la capitale. C'est là que se retrouvent régulièrement Magdalena Sroda et plusieurs de ses camarades anticléricaux. Elle est professeure de philosophie à l'université de Varsovie et milite pour la suppression des cours de religion, créée après la chute du communisme et suivie par quasiment tous les enfants du pays, de la maternelle jusqu'à 18 ans.
Ça donne 900 heures de la religion. Quand je demande à mes étudiants de quoi ils parlent pendant toutes ces leçons, ce sont des heures par semaine, alors c'est vraiment beaucoup. Ils apprennent à se prier et après qu'il y a des sortes de mal, avortement et homosexualisme. C'est tout. Alors, les leçons de la religion en Pologne n'ont rien à voir ni avec le savoir, ni avec l'attitude morale, ni avec la croyance.
Le ministère et les proviseurs n'ont aucun droit de regard sur le contenu de l'enseignement, sauf que c'est bien l'État qui paye les hommes d'église donnant ses cours, plus de 400 millions d'euros par an, et c'est loin d'être la seule source d'argent public pour l'église catholique polonaise, comme le décrit Mirosław Woroniecki, avocat et président d'une association pour la sécularisation de la Pologne.
La loi garantit un certain nombre d'avantages à l'église, notamment financiers. Il y a d'abord les subventions publiques directes pour les activités de charité, par exemple. Ensuite, l'Église catholique polonaise reçoit des dons de la part d'entreprises publiques ou détenues en majorité par l'État. Et puis, les églises paient moins, voire pas d'impôts sur leurs activités économiques. Elles bénéficient d'un régime dérogatoire. Bref, il y a tellement de canaux par lesquels l'Église est financée qu'il est impossible de savoir exactement combien elle reçoit.
Des hommes et femmes politiques militent pour que l'Église soit plus transparente sur ses revenus, comme Wanda Nowicka, ex-vice-présidente de la Diète, la chambre basse du Parlement polonais. Elle a tenté de réduire l'influence de l'Église dans la politique du pays.
Ce que fait le gouvernement actuel est vraiment scandaleux. Il n'applique pas seulement les consignes de l'Église, non. Les membres les plus importants de l'exécutif participent aussi à des événements religieux. Par exemple, l'anniversaire de Radio Maria. Cette radio religieuse et son propriétaire, le père Redzek, ont déposé position extrémiste, très conservatrice, nationaliste, voire même antisémite. Eh bien, chaque année, maintenant, à cet anniversaire, tout le gouvernement est présent. Ça montre que ces politiciens, quelque part, bradent la neutralité de l'État pour la vendre à l'Église.
Et l'influence politique de l'institution s'observe aussi au Parlement polonais. La députée libérale Joanna Schöring-Wielgus a participé à la création d'une carte de la pédophilie dans l'Église catholique du pays.
Je suis tout le temps seule au Parlement à m'attaquer à ces questions, parce que dès que l'on touche à ces sujets, à l'Église, tout le temps, on nous demande pourquoi. On nous prévient, ne touche pas à ça, c'est trop délicat, ce n'est pas populaire. La Pologne est un pays catholique et puis l'Église est là, elle fait souvent du lobbying au Parlement, influence notre travail. Elle écrit des lettres destinées à tous les députés, comme au sujet de l'avortement, très récemment.
Pour le père Adam Audak, prêtre à Varsovie, l'Église a tout à fait le droit de donner son avis sur les textes en discussion au Parlement.
J'ai l'impression que l'Église polonaise se prononce en suivant les paroles de l'Évangile. Elle doit être en quelque sorte son porte-parole. Donc si un projet de loi va à l'encontre des textes sacrés, alors elle doit s'y opposer. Mais il ne s'agit pas de faire pression sur les hommes politiques. Malheureusement, certains prêtres le font. En revanche, l'Église, oui, a un rôle politique. C'est historique. Cela vient de la période communiste. C'était un lieu de liberté où on pouvait parler, le seul endroit où l'on pouvait critiquer le régime. C'est en ces temps-là qu'une sorte de mariage s'est scellé entre l'opposition politique de l'époque et l'Église. Aujourd'hui, c'est donc presque impossible d'effacer ces liens et le rôle politique de l'Église.
Pourtant, de plus en plus de Polonais sont contre l'intervention du religieux dans les affaires du pays. Les mentalités évoluent dans le bon sens, selon Krzysztof Pieczenski, le président de l'association Poland Laïc.
Il y a du progrès. Quand j'ai créé cette association, il y a 4 ans, personne ne parlait de l'Église, de son emprise en Pologne. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour sans que les médias ne parlent de ce que fait l'Église dans le pays. Donc maintenant, les gens osent parler de ce problème. Et c'est difficile. Il faut du courage pour prendre la croix qui est accrochée au mur et dire « nous n'en avons pas besoin, la Pologne doit être un pays laïque ».
Mais pour Krzysztof Pieczenski, il faudrait vraiment une révolution, se débarrasser notamment du concordat qui lie l'État polonais au Vatican. Et l'homme ne voit aujourd'hui aucun politique être prêt à le faire, y compris dans l'opposition libérale.
Autre pays très catholique, la Croatie. C'est le pays européen qui finance le plus le culte juste derrière la Hongrie. Aujourd'hui, l'opposition réclame une réforme rapide sur le modèle espagnol ou italien, d'autant que les caisses de l'État sont vides. Il faut dire que l'Église est un puissant relais d'influence pour la droite aujourd'hui au pouvoir. Simon Rico.
Chaque année, l'État croate accorde 120 millions d'euros aux différentes instances religieuses du pays, dont 95% sont destinés à l'Église catholique. À cette somme, il faut aussi ajouter les subsides versés par les municipalités aux églises locales. Voilà qui place la Croatie à la 2e place de l'Union européenne en termes de financement du culte derrière la Hongrie. Depuis des années, les partis d'opposition demandent une révision des accords signés avec le Vatican qui régissent le financement de l'Église catholique croate. L'Église orthodoxe et la communauté islamique, qui représentent respectivement la minorité serbe et la minorité bosniaque, bénéficient elles aussi de financements publics. Selon certaines estimations, 1,3% des impôts sont reversés à 13 communautés religieuses. L'argent public sert à financer les salaires des clergés, les activités pédagogiques, éducatives, sociales, culturelles, à couvrir les frais de construction et d'entretien des lieux de culte, et aussi à payer une partie des activités caritatives. En revanche, l'État croate ne finance pas les salaires des enseignants du catéchisme catholique dans les écoles publiques, ni les manuels de catéchisme. Il y a quelques semaines, une proposition de loi a été adressée au Parlement pour réformer ce financement en s'inspirant des modèles allemands, italiens ou espagnols. L'objectif, réduire de moitié les fonds publics alloués aux différents cultes. La Croatie a conclu des accords avec le Saint-Siège en 1998 lorsque la dette atteignait 27% du PIB. Aujourd'hui, elle s'élève à 84%, rappelle Anka Mrak-Taritaš, l'élu libéral à l'origine de ce projet de loi. Une initiative qui a néanmoins peu de chances de passer, le parti conservateur au pouvoir est en effet très proche de l'Église catholique croate.
En Allemagne, quand un contribuable s'inscrit auprès de l'administration fiscale, il doit indiquer sa religion. Ici, on pratique l'impôt ecclésiastique. Il s'élève à 8 ou 9% de l'impôt sur le revenu. Il est prélevé par l'État qui le reverse ensuite aux églises. Une ancienne tradition qui est loin maintenant de faire l'unanimité. Déborah Berlioz.
Les églises chrétiennes n'ont pas vraiment le vent en poupe en Allemagne et elles ne cessent de perdre des membres. Mais grâce à la bonne santé économique du pays, leurs recettes fiscales sont en hausse. L'année dernière, l'impôt ecclésiastique a rapporté environ 12 milliards d'euros aux églises catholiques et protestantes. Cette taxe du culte est pourtant largement controversée. Dans tous les sondages sur le sujet, la majorité des Allemands se prononcent contre cet impôt, et cela fait longtemps que le parti d'extrême gauche Die Linke réclame son abolition. Il reproche notamment à l'État de perdre sa neutralité avec cet impôt, car les communautés musulmanes en sont exclues. Pour bénéficier de cette taxe, les organisations religieuses doivent en effet obtenir le statut de corporation de droit public. Pour ce faire, elles doivent notamment justifier d'un certain nombre de membres. Les églises catholiques et protestantes ainsi que la communauté juive ont accédé à ce statut, mais la communauté musulmane est trop éclatée et pas assez fédérée pour remplir ces critères. Cependant, Die Linke est bien le seul parti d'Allemagne à réclamer la suppression de cette taxe. Même les écologistes ne s'y opposent pas. Il faut dire que tout le monde semble y gagner. Pour les églises, laisser l'État se charger de la collecte est bien plus aisé et l'administration prélève 2 à 3% de la taxe du culte pour ce service. Par ailleurs, si l'État allemand est laïque, il considère les communautés religieuses comme de véritables partenaires. Les églises catholiques et protestantes gèrent ainsi des milliers d'hôpitaux, maisons de retraite, crèches, écoles ou encore centres d'accueil pour réfugiés. Avec 1,3 million d'employés, elles sont, après l'État, le deuxième employeur d'Allemagne.
My religion is my personal business.
Et en France alors, Église et État ont été strictement séparés il y a plus de 100 ans, en 1905, avec la loi sur la laïcité. Deux territoires, l'Alsace et la Moselle, font exception car ils étaient allemands à cette époque. Après 1918, ils ont gardé leur spécificité en matière de gestion des cultes. Curés, pasteurs, rabbins sont fonctionnaires et tous les écoliers suivent des cours de religion ou de morale. Alors à quoi ressemble le quotidien par exemple d'un pasteur agent de l'État? Corinne Fugler a rencontré Christophe Correur, pasteur à l'église Saint-Guillaume à Strasbourg.
L'église luthérienne Saint-Guillaume borde l'Ille, un affluent du Rhin. Elle date du XIIIe siècle. Elle est connue pour sa silhouette atypique et son clocher de guingois. Restaurer l'église, c'est l'une des missions de son pasteur, Christophe Correur.
C'est vrai que cette façade et cette flèche de guingois interpellent, étant donné qu'il n'y a pas d'angle droit. C'est une charpente assez particulière qui a été faite de manière vrillée et qui donne une apparence tout à fait particulière et déroutante à ce clocher, oui.
Il faut réunir 3 millions d'euros pour ce chantier qui doit durer 3 ans. La paroisse en financera plus de la moitié. Les murs, la toiture, les vitraux, il faut tout rénover et aussi relooker la nef.
L'église est actuellement blindée de très longs bancs. Actuellement, nous n'avons plus besoin d'autant de place, mais nous avons besoin d'un espace qui puisse vivre, d'un espace qui puisse être polyvalent. Les chaises permettront aussi d'avoir dans ce lieu des concerts, d'organiser d'autres choses aussi. Par exemple, organiser le grand repas paroissial annuel, des représentations théâtrales aussi, des expositions.
En septembre dernier, l'église a d'ailleurs accueilli deux projections de L'Exorciste, le célèbre film de William Friedkin. À la fin du 19e siècle, le prix Nobel alsacien Albert Schweitzer y jouait Beethoven et Bach à l'orgue. La paroisse compte 5 salariés, dont 2 organistes. Le pasteur pratique l'orgue lui aussi. Agent de l'État, Christophe Correur dépend du ministère de l'Intérieur, ce qui lui assure une certaine liberté.
Je suis alsacien. Moi, c'est normal qu'un pasteur ou un prêtre ou un rabbin soit salarié par l'État. Je pense même qu'un imam, aujourd'hui, devrait l'être aussi, moyennant une formation universitaire dans une université française. Ça me semblerait tout à fait normal et juste. Le fait que la rémunération soit payée par l'État donne une certaine stabilité à l'Église. L'Église n'est pas dépendante de fluctuations de dons, comme ça peut être le cas dans des églises qui sont séparées de l'État.
Christophe Correur a aussi exercé en Suisse, où les pasteurs vivent des dons des paroissiens.
Il y a un vieux dicton qui dit « qui paye commande ». Et l'Église ne fait pas exception. J'ai quand même vu en Suisse des situations d'églises Neuchâtel et Genève, à la fois sous perfusion financière de grandes familles très fortunées qui payaient beaucoup par conviction, par valeur, par tradition. Et d'un autre côté, comment est-ce qu'un pasteur peut conserver sa liberté de parole de laquelle il doit pouvoir user pour faire son travail? Le pasteur a un rôle prophétique aussi, j'ai envie de dire, c'est-à-dire prophétique dans le sens d'interpellation, peut-être aussi dans le sens de déranger de temps en temps, d'être le grain de sable qui vient se mettre dans un rouage trop bien huilé.
Un grain de sable qui peut se faire virer s'il déplaît.
J'ai en Suisse quand même vu des paroissiens dire, mais puisque l'Église ne fait pas ou ne fait plus les choses comme nous on l'entend, c'est 50 000 euros de moins cette année, 100 000 euros de moins. Alors, pour moi, l'Église d'État, en tout cas telle que je la connais ici en Alsace, est garante d'une certaine liberté de parole aussi.
En Alsace, un millier de ministres des cultes appartient à la fonction publique d'État.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen.
Unique en Europe et dans le monde, donc, les rapports entre les religions et l'État sont régis en France par ce qu'on appelle la loi 1905 sur la laïcité. Pour l'adapter au nouveau paysage religieux, l'exécutif envisage d'ailleurs de la réformer sans toucher à ses grands principes. Dans le reste de l'Europe, les débats surgissent, on l'a vu plus tôt. On peut y ajouter le cas de la Grèce, où le Saint-Synode orthodoxe vient de rejeter le projet du gouvernement Tsipras de séparation de l'Église et de l'État. Les rapports entre sphère publique et sphère religieuse en Europe sont véritablement complexes. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
On peut préciser que s'il n'existe pas d'État religieux en Europe, Daniel, la laïcité à la française n'a pas cours ailleurs.
Tous les États européens, sans exception, sont de nature laïque, dans la mesure où ils ne sont pas dirigés par l'Église et garantissent la liberté de conscience et des cultes. Mais le terme laïque a pris en France une connotation plus restrictive et désigne un État qui ne s'adosse à aucune religion, n'en reconnaît aucune en tant que telle et n'entretient aucune relation officielle avec elle.
Alors quel est aujourd'hui le régime religieux de l'Allemagne ?
Outre la Bavière catholique qui a passé un concordat avec le Vatican, il existe dans toute l'Allemagne des accords entre les Länder et les confessions catholiques, luthériennes, évangéliques, israélites. Ainsi, la Constitution fédérale se déclare consciente de sa responsabilité devant Dieu et les hommes. Surtout, l'État fédéral lève des impôts pour le compte des 17 religions qui ont le statut de collectivité publique. Seuls ceux qui se déclarent sans religion ne paient pas l'impôt du culte, dont le montant atteint 9% de l'impôt sur le revenu. Les deux religions, catholiques et évangéliques, collectent ainsi 10 milliards d'euros par an.
Et cet impôt cultuel est-il fréquent sur le reste du continent ?
Un impôt religieux spécifique est levé également en Autriche, au Danemark, en Suède et en Finlande. Dans d'autres pays, les ministres du culte sont rémunérés directement par l'État. On l'a vu en Alsace-Moselle et c'est aussi le cas en Roumanie, en Grèce et en Belgique, où même les imams sont rétribués. Enfin, dans de nombreux pays catholiques, il existe un impôt de mandat qui correspond à une fraction de l'impôt sur le revenu de 0,5 à 2%, acquitté par tous les contribuables désireux de financer un culte. Italie, Espagne, Portugal, Hongrie, Slovaquie, Croatie connaissent ce régime.
Il n'y a donc pas, Daniel, dans tous ces pays de séparation de l'Église et de l'État ?
Si, il y a séparation, mais dans presque tous les pays à majorité catholique, les conditions d'exercice de la religion sont réglées en vertu d'un accord formel entre l'État concerné et le Vatican. Ce sont les concordats qui prévoient souvent, et pas toujours de façon facultative, l'enseignement de la religion catholique à l'école publique, la rétribution des enseignants religieux, la validité civile du mariage à l'Église, ainsi que divers avantages fiscaux, parfois très importants pour l'Église. En revanche, dans plusieurs pays à dominante cette fois protestante, on ne peut parler de séparation de l'Église et de l'État puisqu'il existe une religion d'État. C'est le cas en Angleterre, où le souverain est le chef officiel de l'Église anglicane. C'est aussi le cas au Danemark et en Finlande pour l'Église luthérienne. Enfin, en Grèce, la Constitution stipule que la religion dominante est celle de l'Église orthodoxe orientale du Christ. Malgré la tentative récente d'Alexis Tsipras, l'Église orthodoxe va donc sauver ses exemptions fiscales quasi universelles et les religieux conserver leur statut de fonctionnaire payé par l'État.
Et quelle est la situation dans les très religieuses Pologne et Irlande ?
Dans ces deux pays, l'Église a une influence très forte et séculaire sur des sociétés où la pratique religieuse est élevée, bien qu'en recul. En Pologne, on l'a vu avec le reportage de Thomas Giraudot, les privilèges fiscaux de l'Église catholique sont considérables et l'on estime qu'elle se voit allouer plus de 500 millions d'euros de fonds publics annuels, sans compter qu'elle dispose, comme en Irlande, de propriétés foncières considérables. Ce qui permet d'ailleurs aux clergés polonais et irlandais d'être rémunérés directement par une Église très opulente.
Finalement, on le constate, la place des Églises en Europe reste importante.
Oui. À part la France, cette place n'est assez réduite aujourd'hui que dans quelques pays comme la République tchèque ou les Pays-Bas. Cela dit, le recul des pratiques religieuses est général. Et même dans des bastions religieux comme la Grèce, l'Irlande ou la Pologne, la place et surtout les privilèges de l'Église sont en débat.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. À bientôt Daniel.
À bientôt Catherine.
Merci de nous avoir suivis sur Accent d'Europe à la réalisation et la mise en onde de Françoise Grelot. Vous pouvez nous suivre sur RFI.fr et bien entendu sur notre page Facebook.